Bonjour et bienvenue dans Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou. Cela faisait quelques mois que je n'avais pas posté de nouveau podcast, mais vous m'en avez tellement fait la demande que me voilà de retour. Merci d'ailleurs pour tous vos partages, votre soutien et votre passion. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Sinon, dans tous les cas, rendez-vous sur mon blog valerieorsoni.fr dans le menu horizontal. Vous trouverez le mot podcast. En cliquant dessus, vous pouvez accéder à toutes les émissions passées. Je vous rappelle que si vous avez envie de transformer votre corps, ne cherchez pas plus loin. Rendez-vous sur lebootcamp.com pour vous faire coacher au jour le jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont je parle souvent, que je pratique depuis 20 ans sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, le fameux biohacking ou biohacking. Alors, le biohacking, c'est une pratique qui consiste à apporter des modifications volontaires à son propre corps et à son mode de vie afin d'optimiser ses performances physiques et mentales. Cela peut inclure l'utilisation de technologies, de suppléments, de régimes alimentaires spécifiques, d'exercices physiques ciblés, de méditation, de techniques de gestion du stress et bien d'autres encore. Alors, l'objectif du biohacking est d'améliorer la santé, l'énergie, la concentration, la créativité, le bien-être général en exploitant les connaissances scientifiques, les nouvelles technologies et les stratégies personnelles. Les biohackers, dont je fais partie, cherchent à repousser les limites de leur propre corps et à optimiser leur potentiel. Alors, il est important de noter que le biohacking peut prendre différentes formes et qu'il existe des approches variées, allant de celles basées sur des pratiques naturelles et non invasives à celles impliquant des interventions plus avancées et potentiellement risquées. Il est donc recommandé de consulter des professionnels de la santé et de faire preuve de prudence lorsqu'on s'engage dans des pratiques de biohacking, il s'en va sans dire. Si vous vous demandez quelle est la différence entre épigénétique et biohacking, eh bien, vous n'êtes pas seul. L'épigénétique et le biohacking sont deux concepts distincts mais liés dans le domaine de la santé et de la biologie. L'épigénétique se réfère aux modifications réversibles et héritables de l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN. En d'autres termes, l'épigénétique étudie comment des facteurs externes tels que l'alimentation, le stress, l'environnement ou le mode de vie peuvent influencer l'activité de nos gènes et la manière dont ils se sont exprimés ou dont ils s'expriment. Ces modifications épigénétiques peuvent avoir un impact sur notre santé, notre susceptibilité aux maladies et notre vieillissement. Un exemple simple, si vous avez le gène du cancer du côlon par exemple, clairement, limiter votre consommation de viande rouge, d'alcool et augmenter votre consommation de fibres peut empêcher le gène de s'exprimer. C'est ça l'épigénétique. Le biohacking, quant à lui, est un mouvement axé sur l'optimisation du corps et de l'esprit grâce à des pratiques de modification volontaire, souvent basées sur des connaissances scientifiques et des techniques émergentes. Le biohacking vise à améliorer les performances physiques et mentales, à promouvoir la santé, à prolonger la durée de vie et à repousser les limites de l'humain. Il peut impliquer des interventions telles que l'utilisation de technologies, de suppléments, dont je suis fan, de régimes alimentaires spécifiques, là encore mon dada, d'exercices physiques ciblés, vous me reconnaîtrez là aussi, de techniques de méditation, tiens donc mon Medi-Yoga tombe à point, ou de gestion du stress, entre autres. Ainsi, on peut dire que l'épigénétique étudie les mécanismes moléculaires qui régulent l'expression des gènes et comment ils sont influencés par des facteurs externes, en gros notre style de vie, tandis que le biohacking met en pratique ses connaissances pour optimiser la performance, la santé et le bien-être à travers des interventions volontaires et des approches personnalisées. Alors, très important, l'épigénétique, c'est un domaine scientifique établi, il est étudié par des chercheurs et des experts, tandis que le biohacking peut être considéré comme un mouvement plus informel et diversifié, avec des pratiques et des approches variées, parfois même, et très souvent, en dehors du cadre scientifique établi. Alors, le concept du biohacking n'est pas attribué à une seule personne spécifique. Il s'agit plutôt d'un terme qui a émergé dans les années 80, ça fait pas longtemps, ça fait 40 ans, et vraiment, on dira 20 ans qu'on en parle plus, donc c'est pas vraiment récent. Et ce terme englobe une gamme de pratiques et d'approches variées, hein, visant à optimiser le corps et l'esprit. Alors, différentes personnes et communautés ont contribué à façonner et développer ce concept au fil du temps. Mais bon, néanmoins, certains considèrent Dave Asprey, le fondateur de Bulletproof, comme l'un des pionniers du biohacking moderne. Son travail sur l'optimisation de la performance humaine et du bien-être à travers des pratiques telles que le régime alimentaire, les compléments alimentaires et la gestion du sommeil a contribué à populariser le biohacking. Alors, un sujet central du biohacking consiste à ralentir la vitesse de réduction des télomères. Mais c'est quoi les télomères ? Ah, les télomères sont des structures situées à l'extrémité des chromosomes dans les cellules humaines. Ils jouent un rôle crucial dans la protection de l'ADN qui contient, comme vous le savez, les instructions génétiques essentielles pour le fonctionnement et la reproduction des cellules. Alors, pour faire simple, les télomères sont souvent comparés aux embouts en plastique présents aux extrémités des lacets de chaussures. Ils empêchent, en quelque sorte, les chromosomes de fusionner entre eux ou de subir des dommages lors de la division cellulaire. Alors moi, je sais qu'on parle souvent de cette analogie aux lacets de chaussures, mais j'aime bien aussi les comparer à des rames de papier qui perdraient une page à chaque réplication. Je trouve que visuellement, c'est assez facile à comprendre. Alors, au fur et à mesure que les cellules se divisent et se renouvellent, eh bien, les télomères ont tendance à se raccourcir progressivement. Ce raccourcissement est considéré comme un marqueur du vieillissement cellulaire. Et lorsque les télomères deviennent trop courts, cela peut affecter la stabilité de l'ADN et conduire à des problèmes de santé. En fait, je compare souvent le raccourcissement des télomères à un compte épargne âge en bonne santé qui se réduirait comme peau de chagrin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous produisons une enzyme qui ralentit le raccourcissement des télomères, voire les rallonge. Cette enzyme, tadam, c'est la télomérase. Alors, la télomérase, c'est une enzyme qui est présente dans certaines cellules, notamment les cellules souches et aussi, malheureusement, dans les cellules cancéreuses. Elle a la capacité de rallonger les télomères en ajoutant des séquences d'ADN répétitives. Cependant, dans la plupart des cellules, eh bien, la télomérase elle est feignante, elle est peu active et les télomères se raccourcissent progressivement au fil du temps. Alors les télomères et leur fonctionnement sont étroitement liés au vieillissement, vous l'aurez compris. C'est pour cela que dans le monde du biohacking, on considère que la télomérase, c'est la fontaine de jouvence. Et je vous le dis, celui qui découvrira comment produire de la télomérase en plus grande quantité, sans mettre en danger notre santé, eh bien cette personne fera fortune, c'est garanti. À titre personnel, cela fait 2 ans maintenant que je prends un supplément qui s'appelle l'Astragale 65. Et l'Astragale 65 est une plante médicinale utilisée depuis longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise. Et elle a été étudiée pour ses nombreux bienfaits potentiels sur la santé, y compris sur son effet sur les télomères. Alors, certaines recherches ont suggéré que l'astragale pourrait jouer un rôle dans la préservation de la longueur des télomères, c'est pas rien. Et des études in vitro et sur des modèles animaux ont montré que les extraits d'astragale pourraient stimuler l'activité de l'enzyme télomérase qui est impliquée dans le maintien de la longueur des télomères. Alors, n'ayant pas trouvé d'effet secondaire problématique, j'ai décidé d'en prendre au quotidien. Mais alors attention, comme c'est devenu un petit peu à la mode, ça fait 1 an que j'en parle, j'ai vu quelques suppléments sortir en France. Ça ne doit pas coûter cher. Hein. L'Astragale 65, c'est un budget de 50 euros par mois maximum. Je vois sortir des marques soi-disant fabriquées en Suisse une nuit de pleine lune par je ne sais pas qui. Et tout à coup, c'est 300 euros, 400 euros, 500 euros. Ne tombez pas dans le piège. L'Astragale 65, ça ne coûte pas cher. Alors, une autre arme que les biohackers adorent, et j'en fais partie, ce sont les peptides. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir parfois en story, j'en ai parlé. Mais effectivement, dans le domaine du biohacking, les peptides sont souvent utilisés comme outil pour optimiser la performance physique, améliorer la santé et promouvoir le vieillissement en bonne santé. C'est quoi un peptide ? Déjà, un peptide, c'est une molécule constituée de 2 ou plusieurs acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Alors, les acides aminés sont les éléments constitutifs de base des protéines, ça vous le savez parce que j'en parle très souvent. Et lorsque ces acides aminés se lient en chaîne plus courte, eh bien, on parle de peptides. Hein. Alors, les peptides, ils peuvent vraiment varier en taille. Ils ont une drôle de tête d'ailleurs. Si vous allez chercher sur Google, vous verrez ça, c'est rigolo, une tête de peptide. Ça peut aller de quelques acides aminés à plusieurs dizaines. Ils jouent un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques en tant que messagers chimiques et régulateurs. Certains peptides agissent comme des hormones, des neurotransmetteurs ou des facteurs de croissance, tandis que d'autres peuvent être impliqués dans la régulation du système immunitaire, la modulation de l'inflammation, la régulation du métabolisme et bien d'autres fonctions biologiques. Alors, les peptides peuvent être utilisés dans le biohacking de différentes manières. Certains peptides, tels que les peptides de croissance, peuvent favoriser la croissance musculaire, la récupération et la régénération des tissus, et ils sont parfois, souvent, utilisés dans le cadre de la performance sportive ou de la musculation. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux peptides sont bannis par les instances de dopage, notamment comme le fameux IPO-EPO. Hein. Alors d'autres peptides peuvent être utilisés pour optimiser la fonction cognitive, améliorer la qualité du sommeil, renforcer le système immunitaire, réduire l'inflammation ou favoriser la santé générale. Alors il est important de noter, ça c'est très important, que l'utilisation des peptides dans le biohacking nécessite une compréhension approfondie de leur fonctionnement, des dosages appropriés et des protocoles de sécurité. Il est recommandé, et moi je le recommande fortement, de consulter un professionnel qui s'y connaît bien sûr, qui est qualifié avant d'entreprendre toute utilisation de peptides dans un contexte de biohacking. À titre personnel, j'ai découvert l'existence et j'utilise trois peptides qui m'ont sauvé de la chirurgie et d'autres problèmes. Il s'agit du BPC-157, je vais vous en parler, du TB-500, je vais aussi vous en parler, et de l'épitalone, aussi appelé épisalone. Alors, le BPC-157, ça fait presque un an, non pas un an, ça fait 6 mois que je vous en parle. C'est un peptide synthétique qui est composé de 15 acides aminés. Il est également connu sous un autre nom, Body Protecting Compound 157, composé de protection du corps. Alors, le BPC-157, il est étudié pour ses potentiels effets sur la cicatrisation, sur la régénération des tissus et sur l'inflammation. Alors, il a été démontré qu'il favorisait la guérison des lésions musculaires, tendineuses et osseuses, ainsi que la réparation des intestins endommagés. Moi, c'est que des problèmes que j'ai. On pense qu'il agit en stimulant la production des facteurs de croissance, en favorisant la circulation sanguine et en modulant, ça c'est très important, la réponse inflammatoire. Alors, ce peptide a suscité un intérêt considérable dans le domaine du biohacking et du bien-être. D'ailleurs, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous cherchez BPC-157, vous trouverez beaucoup de résultats. Il est souvent utilisé par les athlètes et les personnes cherchant à accélérer la récupération après une blessure ou une intervention chirurgicale. Alors, le TB-500, quant à lui, ça fait pas longtemps que je m'en sers, je l'ai découvert il y a à peine 3 mois. C'est un peptide synthétique qui est également connu sous le nom de thymosine bêta-4. Et il est dérivé, parce qu'en fait, il tient son nom d'une protéine naturelle dont il est dérivé, qui s'appelle thymosine bêta-4, et qui est présente dans le corps humain. Alors, le peptide est synthétique, mais la protéine, elle est présente naturellement dans le corps humain. Alors, le TB-500, il est étudié pour ses potentiels effets sur la régénération et la cicatrisation des tissus. On pense qu'il agit en favorisant la migration des cellules, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et la réparation des tissus endommagés. Ben, rien que ça. Et il a montré des effets bénéfiques potentiels dans la cicatrisation des blessures musculaires, des lésions tendiniteuses, des problèmes articulaires et d'autres troubles inflammatoires, et d'ailleurs aussi dans l'arthrose. Alors, en raison de ses propriétés potentielles, le TB-500 est parfois, ou plutôt souvent, utilisé par les athlètes et les personnes qui cherchent à accélérer la récupération après des blessures ou des interventions chirurgicales. Alors, comme le reste, attention, les recherches sur le TB-500 sont encore en cours, c'est assez récent quand même, et son utilisation chez l'homme nécessite une prudence appropriée. Donc, à titre personnel, basé sur ce que je connais et les conclusions que j'en ai tirées, je m'injecte personnellement, j'ai appris à le faire, je le fais toute seule, ou je me fais aider selon la zone. Je m'injecte dans 2 zones de mon corps au quotidien, un mélange BPC-157 et TB-500. Mais il faut savoir que ces injections, elles sont interdites en Californie, mais tenez-vous bien, elles sont tout à fait autorisées et légales dans de nombreux États aux États-Unis, comme la Floride, l'Arizona ou l'État de New York, où des médecins en ont fait leur spécialité. Alors, ce qui est très intéressant, et je pense que là, le poids des lobbies pharma a marqué le coup, c'est que ces peptides, ils ne sont pas interdits par notre organisme de contrôle des médicaments, un peu l'agence du médicament américaine. Ils ne sont pas validés pour une utilisation sur l'homme officiellement, mais ils sont acceptés comme non dangereuses. C'est vraiment hypocrite. Donc en gros, on vous dit que ce n'est pas dangereux, mais on ne sait pas si vous pouvez l'utiliser. C'est quand même bizarre, non? Enfin, à titre perso, après un an de souffrance atroce, suite à la dislocation de mon épaule droite par un médecin français qui avait perdu son équilibre et m'a bousillé l'épaule, après des mois de rééducation, des traitements en tout genre, et ce n'est qu'une fois que je me suis lancée dans les injections de peptides, qu'en moins de 2 semaines, j'ai pu récupérer l'usage de mon épaule et que les douleurs sont passées de 8 sur 10 à 2 sur 10. Pareil pour ma cheville, ma cheville droite blessée, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, blessée avec des tendons et des ligaments endommagés, et bien en moins de 10 jours d'injection, je pouvais à nouveau fonctionner. C'est absolument... Alors j'aime pas le mot miraculeux, n'exagérons rien, mais enfin l'impact est très visible et vous pouvez le constater directement, c'est juste absolument dingue. Bref, le dernier peptide... C'est l'épitalone, aussi appelé épisalone, ou AEDG. C'est un peptide synthétique composé seulement de 4 acides aminés, et il a été développé initialement en Russie, et il est souvent étudié pour ses effets potentiels sur le vieillissement et la longévité. Alors c'est pas très étonnant, parce que j'ai un autre podcast sur les plantes adaptogènes, hein, qui permettent au corps de devenir, d'avoir une meilleure réponse au stress dans la vie de tous les jours. Encore, les plantes adaptogènes avaient vraiment été découvertes et mises à l'ordre du jour par les soviets à l'époque, les soviétiques qui voulaient créer un surhomme. Ça a toujours été un peu un objet de recherche en Russie, plus qu'ailleurs, comment devenir plus fort, plus en meilleure santé, etc. Alors, on pense que l'épitalone agit en stimulant la production de la glande pinéale, hein, qui sécrète la mélatonine, et c'est une hormone qui est régulatrice du sommeil, mais qui est aussi, très peu de gens le savent, un antioxydant très puissant. On en parlera une autre fois, ça peut être un sujet à lui tout seul, à elle toute seule, la mélatonine. Alors, l'épitalone est également supposé influencer la régulation des télomères, tiens donc, on s'y retrouve, qui sont, comme on l'a vu plus tôt, les extrémités protectrices de l'ADN et qui peuvent raccourcir avec l'âge. Alors, certaines recherches suggèrent que l'épitalone pourrait aider à maintenir la longueur des télomères en favorisant l'activité de l'enzyme télomérase, dont on a déjà parlé, et qui, vous le savez, est responsable de la régénération des télomères. Alors, en préservant la longueur des télomères, on pense que l'épitalone pourrait potentiellement ralentir le processus de vieillissement et favoriser une meilleure santé. Cependant, comme pour tous les autres peptides, hein, attention, les recherches sur l'épitalone, son influence sur les télomères, c'est en cours. On a des études précliniques et de cellules en laboratoire qui ont montré que ça marchait, mais attention, le bémol, c'est pas encore très bien extrapolé à l'utilisation chez l'homme officiellement. Les études russes ont été extrapolées sur l'homme, mais n'ont pas été retenues par de nombreuses instances internationales, de par apparemment la façon dont les études ont été conduites. Alors, très important, bien qu'on sache que la longueur des télomères, c'est un facteur complexe, hein, qui peut être influencé par de nombreux facteurs autres que les injections de votre épitalone, vous le savez, elles peuvent être influencées par votre mode de vie, par la génétique. Il ne faut pas non plus avoir une obsession pour la télomérase, parce qu'il faut savoir que trop de télomérase, eh ben, c'est pas bon non plus. Néanmoins, pour l'épitalone, dans le contexte d'un protocole russe, l'idée, c'est des injections par voie sous-cutanée, 5-10 mg par jour, pendant 10 à 20 jours. Il y a un protocole russe, il y a un protocole ukrainien. C'est très intéressant d'ailleurs de voir les différences entre les deux. Je ne rentre pas trop dans les détails, je n'ai pas trop envie que vous le fassiez sans avoir fait vos recherches avec le bon support médical. Mais les résultats sont plutôt très très intéressants de ce que j'ai vu. Et à titre personnel, je vais le faire très bientôt. Voilà, enfin je pourrais passer des heures à vous parler de biohacking, c'est une passion. Et donc je pense que je consacrerai d'autres podcasts dans le futur à des sujets biohacking plus précis. Basé peut-être aussi d'ailleurs sur vos demandes. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Écoutez-le en marchant, en courant, en faisant du vélo, bref, en étant actif, car se bouger fait partie de l'arsenal des biohackers. À bientôt.